Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Première partie, la vie. Suite de la nature de l'esprit. Un Bouddha n'est pas une sorte de surhomme spirituel tout-puissant. Devenir Bouddha, c'est devenir enfin un être humain authentique. L'une des plus grandes traditions bouddhistes décrit la nature de l'esprit comme la sagesse de l'ordinaire. Je ne le dirai jamais assez, notre véritable nature, la nature de tous les êtres, n'est pas extraordinaire. Paradoxalement, c'est ce monde soi-disant ordinaire qui est extraordinaire. Une hallucination fantastique et complexe, provoquée par la vision trompeuse du samsara. Le samsara est le cycle incontrôlé des naissances et des morts, dans lequel tous les êtres sensibles, menés par leur action maladroite et leur émotion destructrice, perpétuent leur propre souffrance. Le nirvana est un état au-delà de la souffrance, la réalisation de la vérité ultime, l'état de Bouddha. Dilgo Khyentse Rinpoche dit « Lorsque la nature de l'esprit est reconnue, c'est le nirvana. Lorsqu'elle est obscurcie par l'illusion, c'est le samsara. » C'est cette vision extraordinaire qui nous rend aveugles à la nature ordinaire, inhérente et naturelle de notre esprit. Imaginez que les Bouddhas abaissent les yeux sur nous aujourd'hui. Quelle tristesse, quel étonnement seraient les leurs devant l'ingéniosité et la complexité fatale de notre confusion. Nous sommes si inutilement compliqués que lorsqu'un maître nous introduit à la nature de notre esprit, nous la trouvons parfois trop simple pour y croire. Notre esprit ordinaire nous dit qu'il ne peut en être ainsi, qu'il doit y avoir quelque chose de plus. Nous voudrions davantage de manifestations merveilleuses, telles que l'apparition de lumière éblouissante dans l'espace environnant, la vision d'anges, aux cheveux d'or ondoyants, descendant jusqu'à nous d'un coup d'aile ou encore une voix d'outre-tombe, nous annonçant. Maintenant, vous avez reçu l'introduction à la nature de l'esprit. Mais non, aucune mise en scène de ce genre ne se produit. Du fait de l'importance excessive que, dans notre culture, nous accordons à l'intellect, nous imaginons qu'atteindre l'éveil exige une intelligence supérieure. Au contraire, bien des formes d'agilité intellectuelle ne font que nous aveugler davantage. C'est ce qu'exprime ce proverbe tibétain. Si vous êtes trop malin, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. Comme le disait Patrul Rinpoche, L'esprit logique semble présenter de l'intérêt, mais il est, en fait, le germe de l'illusion. On peut être omnibulé par ses propres théories et passer à côté de tout. Nous disons au Tibet, les théories sont comme des pièces sur un vêtement. Elles finissent un jour par s'user. Laissez-moi à ce propos vous conter une histoire encourageante. Au siècle dernier, un grand maître avait un disciple particulièrement obtus. À maintes reprises, le maître lui avait donné l'enseignement, essayant de l'introduire à la nature de son esprit, mais c'était peine perdue. À la fin, il se mit en colère et lui dit « Écoute-moi. Je veux que tu portes ce sac d'orge jusqu'au sommet de la montagne, là-bas. Mais tu ne dois pas t'arrêter pour prendre le moindre repos. Marche sans cesse, jusqu'à ce que tu atteignes le sommet. » Le disciple était un homme simple, mais il éprouvait envers son maître une dévotion et une confiance inébranlable. Il fit exactement ce que celui-ci lui avait dit. Le sac était lourd. Il le souleva et commença à gravir la montagne sans oser s'arrêter. Il marcha sans discontinuer, le sac pesant de plus en plus lourd. Il lui fallut longtemps pour atteindre le sommet. Et quand enfin il y parvint, il laissa tomber sa charge. Il s'écroula à terre, épuisé de fatigue, mais profondément détendu. Il ressentit la fraîcheur d'une brise de montagne sur son visage. Toutes ses résistances s'évanouirent, et avec elles, son esprit ordinaire. Tout sembla suspendu. À cet instant précis, il réalisa soudain la nature de son esprit. « Ah, voilà ce que mon maître essayait de me montrer durant tout ce temps, » pensa-t-il. Il descendit la montagne en courant. Et laissant là les convenances, fit irruption dans la chambre de son maître. « Je crois que j'ai compris maintenant, j'ai vraiment compris. » Son maître lui sourit d'un air entendu. « Alors, tu n'as pas perdu ton temps en escaladant la montagne, me semble-t-il. » Nous aussi, qui que nous soyons, pouvons connaître la même expérience que le disciple sur la montagne. C'est elle qui nous donnera l'intrépidité nécessaire pour affronter la vie et la mort. Quel est alors le moyen le plus sûr, le plus rapide et le plus efficace pour commencer? Le premier pas est la pratique de la méditation. C'est la méditation qui purifiera peu à peu notre esprit ordinaire, démasquant et épuisant ses habitudes et ses illusions, pour que, le moment venu, nous puissions reconnaître notre vraie nature. V. Ramener l'esprit en lui-même. Il y a plus de 2500 ans, un homme qui avait recherché la vérité au cours de vies innombrables se rendit en un lieu tranquille du nord de l'Inde. et s'assit sous un arbre. Animé d'une immense détermination, il fit le vœu de ne pas quitter ce lieu avant d'avoir trouvé la vérité. Au crépuscule, dit-on, il triompha de toutes les forces obscures de l'illusion. Et le lendemain, à la première heure, quand la planète Vénus apparut dans le ciel de l'aube, cet homme reçut la récompense de sa longue patience, de sa discipline et de sa concentration sans faille. Il atteignit le but ultime de toute existence humaine, l'éveil. En ce moment sacré, la terre elle-même frémit, comme ivre de béatitude. Et nous disent les Écritures, nul ne fut irrité, malade ou triste, en quelque lieu. Nul ne fit le mal, nul ne ressentit l'orgueil. Le monde fut en paix, comme s'il avait atteint la perfection totale. Cet homme fut par la suite connu sous le nom de Bouddha. Voici la très belle description que donne de cet éveil le maître vietnamien Thich Nhat Hanh. Il apparut à Gautama que la prison dans laquelle il avait été enfermé pendant des milliers de vies s'était brusquement ouverte. L'ignorance en avait été le geôlier. Son esprit avait été voilé par l'ignorance, de même que la lune et les étoiles sont cachées par les nuages d'orage. Obscurci par des vagues incessantes de pensées trompeuses, l'esprit avait à tort divisé la réalité en sujet et objet, soi et autrui. Existence et non-existence, naissance et mort. Et de ces distinctions étaient nées des vues erronées. La prison des sensations, du désir, de la saisie dualiste et du devenir. La souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort n'avait fait que consolider les murs de la prison. La seule chose à faire était de s'emparer du geôlier et de le démasquer. Ignorance était son nom. Une fois le geôlier éliminé, la prison disparaîtrait pour ne plus jamais être reconstruite. Voici ce que réalisa le Bouddha. L'ignorance de notre vraie nature est la source de tous les tourments du samsara. Et la source de cette ignorance elle-même est la tendance invétérée de notre esprit à la distraction. Mettre fin à cette distraction, c'est mettre fin au samsara lui-même. La solution, comprit le Bouddha, était donc de ramener l'esprit à sa vraie nature par la pratique de la méditation. Le Bouddha était assis sur le sol, serein, digne et humble à la fois. Le ciel était au-dessus de lui et autour de lui, comme pour nous montrer qu'en méditation, nous sommes assis avec une attitude d'esprit ouverte et semblable au ciel, tout en restant présents à nous-mêmes et en étroit contact avec la terre. Le ciel est notre nature absolue, sans entrave ni limite. Et le sol, notre réalité, notre condition relative, ordinaire. La posture que nous adoptons quand nous méditons signifie que nous relions l'absolu et le relatif, le ciel et la terre, comme les deux ailes d'un oiseau, intégrant le ciel de la nature immortelle de l'esprit et le sol de notre nature mortelle et transitoire. Apprendre à méditer est le plus grand don que vous puissiez vous accorder dans cette vie. En effet, seule la méditation vous permettra de partir à la découverte de votre vraie nature et de trouver ainsi la stabilité et l'assurance nécessaires pour vivre bien et mourir bien. La méditation est la route qui mène vers l'éveil. L'entraînement de l'esprit. La méditation peut être présentée de bien des façons et j'ai dû l'enseigner des milliers de fois. Pourtant, c'est à chaque fois une expérience différente, toujours directe et toujours nouvelle. Nous vivons heureusement à une époque où beaucoup de gens, de par le monde, commence à se familiariser avec la méditation. Celle-ci est de plus en plus reconnue comme une méthode qui franchit les frontières culturelles et religieuses, s'élève au-dessus d'elle et permet à ceux qui la pratiquent d'établir un lien direct avec la vérité de leur être. C'est une pratique qui, tout en étant l'essence même de toute religion, transcende les dogmes religieux. Distrait de notre être véritable, nous gaspillons d'ordinaire notre vie en occupations sans fin. La méditation, en revanche, et la voie qui nous ramène à nous-mêmes. Elle nous permet de faire l'expérience de notre être dans sa plénitude et de le savourer. Au-delà de tout schéma habituel. Pris dans un tourbillon de hâte et d'agressivité, nous vivons notre vie dans le conflit et l'angoisse. Nous sommes emportés par la compétition, l'avidité, le désir de possession et l'ambition. Nous nous chargeons sans répit d'occupations et d'activités superflues. La méditation est, elle, l'exact opposé. Méditer, c'est rompre complètement avec notre mode de fonctionnement normal. C'est un état libre de tout souci et de toute préoccupation, exempt de toute compétition, désir de possession et saisie dualiste, libre de lutte intense et angoissée et de soif de réussite. C'est un état sans ambition, où ne se manifeste ni acceptation, ni refus, ni espoir, ni peur. Un état dans lequel nous relâchons peu à peu, dans l'espace de la simplicité naturelle, les émotions et les concepts qui nous emprisonnaient. Les maîtres de méditation bouddhistes savent à quel point l'esprit est souple et malléable. Si nous l'entraînons, tout est possible. En fait, nous sommes déjà parfaitement formés, par et pour le samsara, formés à la jalousie, à l'attachement, à l'anxiété, à la tristesse, au désespoir et à l'avidité. Formé à réagir avec colère à toute provocation. Nul besoin d'efforts particuliers pour générer en nous ces émotions négatives. Nous y sommes si bien entraînés qu'elles s'élèvent spontanément. Ainsi, tout dépend de notre entraînement et du pouvoir des habitudes. Consacrons notre esprit à la confusion. Nous savons parfaitement, soyons honnêtes, qu'il deviendra un maître ténébreux de la confusion, expert à nous rendre dépendants, subtils et pervers dans son habileté à nous réduire en esclavage. Consacrons-le dans la méditation, à la tâche de se libérer de l'illusion, avec le temps, la patience, la discipline et l'entraînement approprié. Notre esprit graduellement se dénouera et connaîtra la félicité et la limpidité de sa vraie nature. Entraîner l'esprit ne signifie en aucun cas le soumettre par la force ou lui faire subir un lavage de cerveau. C'est au contraire acquérir d'abord une connaissance précise et concrète de son fonctionnement grâce aux enseignements spirituels et à une expérience personnelle de la pratique de la méditation. Vous pourrez alors avoir recours à cette compréhension pour pacifier votre esprit et travailler habilement avec lui, pour le rendre de plus en plus malléable, afin d'en obtenir la maîtrise, et de l'utiliser au mieux de ses possibilités, et aux fins les plus bénéfiques. Au XIIIe siècle, le maître bouddhiste Shantideva disait: si l'éléphant esprit est lié complètement par la corde attention, toute peur disparaît et le bonheur parfait survient. Tous nos ennemis, tigres, lions, éléphants, ours, serpents, nos émotions, tous les geôliers infernaux et les démons, tous sont soumis par la maîtrise de l'esprit. Tous sont subjugués par la pacification de l'esprit, car toutes les peurs et les peines infinies procèdent de l'esprit seul. La liberté d'expression spontanée d'un écrivain n'est acquise qu'après des années de labeur, souvent fastidieux, et la grâce d'un danseur n'est atteinte qu'au prix d'un immense et patient effort. De même, quand vous recommencerez à comprendre où la méditation vous mène, vous l'aborderez comme la démarche essentielle de votre vie, exigeant de vous une persévérance, un enthousiasme, une intelligence, une discipline considérable. Le cœur de la méditation. La méditation a pour but d'éveiller en nous la nature semblable au ciel de notre esprit, de nous introduire à ce que nous sommes réellement, notre conscience, pure et immuable, sous-jacente à la totalité de la vie et de la mort. Dans l'immobilité et le silence de la méditation, nous entrevoyons puis réintégrons cette nature profonde et secrète que nous avons perdu de vue depuis si longtemps. Au milieu de l'effervescence et de la distraction de notre esprit. N'est-il pas étonnant que cet esprit ne puisse rester en paix plus de quelques instants sans s'emparer immédiatement de la moindre distraction? Il est tellement agité et préoccupé que nous, habitants des grandes métropoles du monde moderne, ressemblons déjà, à mon sens, aux êtres tourmentés de l'état intermédiaire qui suit la mort. La conscience y est, dit-on, en proie aux tourments intenses d'une agitation extrême. Selon certains experts, jusqu'à 13% des citoyens américains souffriraient d'une forme ou d'une autre de maladie mentale. Cela en dit long sur notre mode de vie. Nous sommes fragmentés en une multitude d'aspects différents. Nous ne savons pas qui nous sommes vraiment, ni à quelle facette de nous-mêmes nous devons croire, nous identifier. Tant de voix contradictoires, tant d'exigences et de sentiments se disputent le contrôle de notre vie intérieure que nous trouvons complètement dispersée. Que nous nous trouvons complètement dispersés et notre demeure reste vide. Ainsi, la méditation consiste à ramener l'esprit à sa demeure. Dans l'enseignement du Bouddha, trois facteurs font toute la différence entre une méditation qui est seulement un moyen de détente, de paix et de félicité temporaire, et une méditation qui peut devenir une cause puissante d'éveil pour soi-même et autrui. Nous les qualifions de bon au début, bon au milieu et bon à la fin. Bon au début, né de la prise de conscience que la nature de Bouddha est notre essence la plus secrète, ainsi que celle de tous les êtres sensibles. Et que réaliser cela nous libère de l'ignorance et met un point final à la souffrance. Ainsi, chaque fois que nous commençons notre pratique de la méditation, nous sommes touchés par cette vérité et inspirés par la motivation de dédier notre pratique et notre vie à l'éveil de tous les êtres, dans l'esprit de cette prière que tous les Bouddhas du passé ont formulée. Par le pouvoir et la vérité de cette pratique, puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent-ils ne jamais être séparés du grand bonheur dénué de souffrance. Puissent-ils demeurer dans la grande équanimité qui est libre d'attachement et d'aversion. C'était le livre tibétain de la vie et de la mort par Sogyal Rinpoche. Prochaine émission, suite. Ramener l'esprit en lui-même. Merci et à bientôt dans la quatrième dimension.